Honoré de Balzac, Illusion perdue, 29. Arrivés rue Saint-Fiacre, ils montèrent ensemble à la mansarde où se faisait le journal. Et Lucien fut aussi surpris que ravi de voir l'espèce de joie avec laquelle ses camarades convinrent de démolir le livre de Nathan. Hector Merlin prit un carré de papier et il écrivit ces lignes qu'il alla porter à son journal. On annonce une seconde édition du livre de M. Nathan. Nous comptions garder le silence sur cet ouvrage, mais cette apparence de succès nous oblige à publier un article moins sur l'œuvre que sur la tendance de la jeune littérature. En tête des plaisanteries pour le numéro du lendemain, Lousteau mit cette phrase. Le libraire Doria publie une seconde édition du livre de M. Nathan. Il ne connaît donc pas le proverbe du palais, non bis in idem, honneur au courage malheureux. Les paroles d'Étienne avaient été comme un flambeau pour Lucien, à qui le désir de se venger de Doria tint lieu de conscience et d'inspiration. 3 jours après, pendant lesquels il ne sortit pas de la chambre de Coralie où il travaillait au coin du feu, servi par Bérénice et caressé dans ses moments de lassitude par l'attentive et silencieuse Coralie, Lucien mit au net un article critique d'environ 3 colonnes où il s'était élevé à une hauteur surprenante. Il courut au journal, il était 9 heures du soir. Il y trouva les rédacteurs et leur lut son travail. Il fut écouté sérieusement. Félicien ne dit pas un mot. Il prit le manuscrit et dégringola les escaliers. « Que lui prend-il ? » s'écria Lucien. « Il porte ton article à l'imprimerie, » dit Hector Merlin. « C'est un chef-d'œuvre où il n'y a ni un mot à retrancher, ni une ligne à ajouter. »« Ah, il ne faut que te montrer le chemin, » dit Lousteau. « Je voudrais voir la mine que fera Nathan demain en lisant cela, » dit un autre rédacteur, sur la figure duquel éclatait une douce satisfaction. « Il faut être votre ami, » dit Hector Merlin. « C'est donc bien ?» demanda vivement Lucien. « Blonde et Évignon s'en trouveront mal, » dit Lousteau. « Voici, » reprit Lucien, « un petit article que j'ai broché pour vous et qui peut, en cas de succès, fournir une série de compositions semblables. « Lisez-nous cela, » dit Lousteau. Lucien leur lut alors un de ces délicieux articles qui firent la fortune de ce petit journal et où, en 2 colonnes, il peignait un des menus détails de la vie parisienne, une figure, un type, un événement normal ou quelque singularité. Cet échantillon, intitulé « Les passants de Paris », était écrit dans cette manière neuve et originale où la pensée résultait du choc des mots, où le cliquetis des adverbes et des adjectifs réveillait l'attention. Cet article était aussi différent de l'article grave et profond sur Nathan que les lettres persanes diffèrent de l'esprit des lois. « Tu es né journaliste, » lui dit Lousteau. « Cela passera demain. Fais-en tant que tu voudras. »« Ah ça !» dit Merlin. « Doria est furieux des 2 obus que nous avons lancés dans son magasin. Je viens de chez lui, il fulminait des imprécations, il s'emportait contre Finot, qui lui disait avoir vendu son journal. Moi, je l'ai pris à part et lui ai coulé ces mots dans l'oreille. « Les marguerites vous coûteront cher. Il vous arrive un homme de talent et vous l'envoyez promener quand nous l'accueillons à bras ouverts. » Doria sera foudroyé par l'article que nous venons d'entendre, dit Lousteau à Lucien. Tu vois, mon enfant, ce qu'est le journal. Mais ta vengeance marche. Le baron Châtelet est venu demander ce matin ton adresse. il y a eu ce matin un article sanglant contre lui. L'ex-beau a une tête faible. Il est au désespoir. Tu n'as pas lu le journal ? Oh, l'article est drôle. Vois, convoi du Héron pleuré par la sèche. Madame de Bargeton est décidément appelée l'os de sèche dans le monde, et Châtelet n'est plus nommé que le baron Héron. Lucien prit le journal et ne put s'empêcher de rire en lisant ce petit chef-d'œuvre de plaisanterie dû à Vernou. « Ils vont capituler !» dit Hector Merlin. Lucien participa joyeusement à quelques-uns des bons mots et des traits avec lesquels on terminait le journal, en causant et fumant, en racontant les aventures de la journée, les ridicules des camarades ou quelques nouveaux détails sur leur caractère. Cette conversation éminemment moqueuse, spirituelle, méchante, mit Lucien au courant des mœurs et du personnel de la littérature. « Pendant que l'on compose le journal, dit Lousteau, je vais aller faire un tour avec toi, te présenter à tous les contrôles et à toutes les coulisses des théâtres où tu as tes entrées. Puis nous irons retrouver Florine et Coralie au panorama dramatique où nous folichonnerons avec elles dans leur loge. » Tous deux, donc, bras dessus, bras dessous, ils allèrent de théâtre en théâtre où Lucien fut intronisé comme rédacteur, complimenté par les directeurs, lorgné par les actrices, qui tous avaient su l'importance qu'un seul article de lui venait de donner à Coralie et à Florine, engagées l'une au gymnase à 12 000 francs par an et l'autre à 8 000 francs au panorama. Ce fut autant de petites ovations qui grandirent Lucien à ses propres yeux et lui donnèrent la mesure de sa puissance. À 11 heures, les deux amis arrivèrent au panorama dramatique où Lucien eut un air dégagé qui fit merveille. Nathan y était. Nathan tendit la main à Lucien, qui la prit et la serra. « Ah ça, mes maîtres, dit-il en regardant Lucien et Lousteau, vous voulez donc m'enterrer ? Attends donc à demain, mon cher. Tu verras comment Lucien t'a empoigné. Parole d'honneur, tu seras content. Quand la critique est aussi sérieuse que celle-là, un livre y gagne. » Lucien était rouge de honte. « Est-ce dur ? » demanda Nathan. « Oh, c'est grave, » dit Lousteau. « Il n'y aura donc pas de mal, » reprit Nathan. « Hector Merlin disait au foyer du Vaudeville que j'étais échiné. »« Laissez-le dire et attendez, » s'écria Lucien, qui se sauva dans la loge de Coralie en suivant l'actrice au moment où elle quittait la scène dans son attrayant costume. Le lendemain, au moment où Lucien déjeunait avec Coralie, il entendit un cabriolet dont le bruit net, dans sa rue assez solitaire, annonçait une élégante voiture, et dont le cheval avait cette allure déliée et cette manière d'arrêter qui trahit la race pure. De sa fenêtre, Lucien aperçut en effet le magnifique cheval anglais de Doria, et Doria qui tendait les guides à son groom avant de descendre. « C'est le libraire !» cria Lucien à sa maîtresse. « Faites attendre !» dit aussitôt Coralie à Bérénice. Lucien sourit de l'aplomb de cette jeune fille qui s'identifiait si admirablement à ses intérêts et revint l'embrasser avec une effusion vraie. Elle avait eu de l'esprit. La promptitude de l'impertinent libraire, l'abaissement subit de ce prince des charlatans, tenait à des circonstances presque entièrement oubliées, tant le commerce de la librairie s'est violemment transformé depuis 15 ans. De 1816 à 1827, époque à laquelle les cabinets littéraires, d'abord établis pour la lecture des journaux, entreprirent de donner à lire les livres nouveaux moyennant une rétribution, et où l'aggravation des lois fiscales sur la presse périodique firent créer l'annonce, la librairie n'avait pas d'autre moyen de publication que les articles insérés ou dans les feuilletons ou dans le corps des journaux. Jusqu'en 1822, les journaux français paraissaient en feuilles d'une si médiocre étendue que les grands journaux dépassaient à peine les dimensions des petits journaux d'aujourd'hui. Pour résister à la tyrannie des journalistes, Dauriat et l'advocat, les premiers, inventèrent ces affiches par lesquelles ils captèrent l'attention de Paris, en y déployant des caractères de fantaisie, des coloriages bizarres, des vignettes, et, plus tard, des lithographies qui firent de l'affiche un poème pour les yeux et souvent une déception pour la bourse des amateurs. Les affiches devinrent si originales qu'un de ces maniaques, appelé collectionneur, possède un recueil complet des affiches parisiennes. Ce moyen d'annonce, d'abord restreint aux vitres des boutiques et aux étalages des boulevards, mais plus tard, étendu à la France entière, fut abandonné pour l'annonce. Néanmoins, l'affiche, qui frappe encore les yeux, quand l'annonce et souvent l'œuvre sont oubliées, subsistera toujours, surtout depuis qu'on a trouvé le moyen de la peindre sur les murs. L'annonce, accessible à tous moyennant finances, et qui a converti la quatrième page des journaux en un champ aussi fertile pour le fisc que pour les spéculateurs, naquit sous les rigueurs du timbre, de la poste et des cautionnements. Ces restrictions inventées du temps de M. de Villèle, qui aurait pu tuer alors les journaux en les vulgarisant, créèrent au contraire des espèces de privilèges en rendant la fondation d'un journal presque impossible. En 1821, les journaux avaient donc droit de vie et de mort sur les conceptions de la pensée et sur les entreprises de la librairie. Une annonce de quelques lignes, insérée au Fait Paris, se payait horriblement cher. Les intrigues étaient si multipliées au sein des bureaux de rédaction, et le soir, sur le champ de bataille des imprimeries, à l'heure où la mise en page décidait de l'admission ou du rejet de tel ou tel article, que les fortes maisons de librairie avaient à leur solde un homme de lettres pour rédiger ces petits articles où il fallait faire entrer beaucoup d'idées en peu de mots. Ces journalistes obscurs, payés seulement après l'insertion, restaient souvent pendant la nuit aux imprimeries pour voir mettre sous presse soit les grands articles obtenus, Dieu sait comme, soit ces quelques lignes qui prirent depuis le nom de réclame. Aujourd'hui, les mœurs de la littérature et de la librairie ont si fort changé que beaucoup de gens traiteraient de fables les immenses efforts, les séductions, les lâchetés, les intrigues que la nécessité d'obtenir ces réclames inspirait aux libraires, aux auteurs, aux martyrs de la gloire, à tous les forçats condamnés au succès à perpétuité. Dîner, cajolerie, présent, tout était mis en usage auprès des journalistes. L'anecdote suivante expliquera mieux que toutes les assertions l'étroite alliance de la critique et de la librairie. Un homme de haut style et visant à devenir homme d'État, dans ces temps-là jeune, galant et rédacteur d'un grand journal, devint le bien-aimé d'une fameuse maison de librairie. Un jour, un dimanche, à la campagne où l'opulent libraire fêtait les principaux rédacteurs des journaux, la maîtresse de maison, alors jeune et jolie, emmena dans son parc l'illustre écrivain. Le premier commis, allemand froid, grave et méthodique, ne pensant qu'aux affaires, se promenait, un feuilletoniste sous le bras, en causant d'une entreprise sur laquelle il le consultait. La causerie les mène hors du parc. Ils atteignent les bois. Au fond d'un fourré, l'Allemand voit quelque chose qui ressemble à sa patronne. Il prend son lorgnon, fait signe au jeune rédacteur de se taire, de s'en aller, et retourne lui-même avec précaution sur ses pas. « Qu'avez-vous vu ? » lui demanda l'écrivain.
« Presque rien, » répondit-il.
« Notre grand article passe. Demain, nous aurons au moins 3 colonnes au débat. »
Un autre fait expliquera cette puissance des articles. Un livre de M. de Chateaubriand sur le dernier des Stuarts était dans un magasin à l'état de rossignol. Un seul article, écrit par un jeune homme dans le journal des débats, fit vendre ce livre en une semaine. Dans un temps où, pour lire un livre, il fallait l'acheter et non le louer, on débitait 10 000 exemplaires de certains ouvrages libéraux, vantés par toutes les feuilles de l'opposition. Mais aussi, la contrefaçon belge n'existait pas encore. Les attaques préparatoires des amis de Lucien et son article avaient la vertu d'arrêter la vente du livre de Nathan. Nathan ne souffrait que dans son amour-propre. Il n'avait rien à perdre, il était payé. Mais Doria pouvait perdre 30 000 francs. En effet, le commerce de la librairie dite de nouveauté se résume dans ce théorème commercial. Une rame de papier blanc vaut 15 francs. Imprimée, elle vaut, selon le succès, ou 100 sous ou 100 écus. Un article pour ou contre, dans ce temps-là, décidait souvent cette question financière. Doria, qui avait 500 rames à vendre, accourait donc pour capituler avec Lucien. De sultan, le libraire devenait esclave. Après avoir attendu pendant quelque temps en murmurant, en faisant le plus de bruit possible et parlementant avec Bérénice, il obtint de parler à Lucien. Ce fier libraire prit l'air riant des courtisans quand ils entrent à la cour, mais mêlé de suffisance et de bonhomie.
« Ne vous dérangez pas, mes chers amours, » dit-il.
« Oh, sont-ils gentils, ces 2 tourtereaux !
Ah, vous me faites l'effet de 2 colombes !»«
Qui dirait, mademoiselle, que cet homme, qui a l'air d'une jeune fille, est un tigre à griffes d'acier qui vous déchire une réputation comme il doit déchirer vos peignoirs quand vous tardez à les ôter ?»
Et il se mit à rire sans achever sa plaisanterie.
« Ah, mon petit !» dit-il en continuant et s'asseyant auprès de Lucien.
« Ah, mademoiselle, je suis Doria !» dit-il en s'interrompant.
Le libraire jugea nécessaire de lâcher le coup de pistolet de son nom en ne se trouvant pas assez bien reçu par Coralie.
« Monsieur, avez-vous déjeuné ? Voulez-vous nous tenir compagnie ? » dit l'actrice.
« Mais oui, nous causerons mieux à table, » répondit Doria.
« D'ailleurs, en acceptant votre déjeuner, j'aurai le droit de vous avoir à dîner avec mon ami Lucien,
car nous devons maintenant être amis, comme le gant et la main.
Bérénice, des huîtres, des citrons, du beurre frais et du vin de champagne, » dit Coralie.
« Vous êtes homme de trop d'esprit pour ne pas savoir ce qui m'amène, » dit Doria en regardant Lucien.
« Vous venez acheter mon recueil de sonnets ?»«
Précisément, » répondit Doria.
« Avant tout, déposons les armes de part et d'autre. »
Il tira de sa poche un élégant portefeuille, prit 3 billets de 1 000 francs, les mit sur une assiette et les offrit à Lucien d'un air courtisanesque en lui disant
« Monsieur, est-il content ?»«
Oui, » dit le poète, qui se sentit inondé par une béatitude inconnue à l'aspect de cette somme inespérée.
Lucien se contint, mais il avait envie de chanter, de sauter. Il croyait à la lampe merveilleuse, aux enchanteurs. Il croyait enfin à son génie.
« Ainsi, les marguerites sont à moi ?» dit le libraire.
« Mais vous n'attaquerez jamais aucune de mes publications. »«
Les marguerites sont à vous, mais je ne puis engager ma plume. Elle est à mes amis, comme la leur est à moi. »«
Ah, mais enfin, vous devenez un de mes auteurs.
Tous mes auteurs sont mes amis. »«
Ainsi, vous ne nuirez pas à mes affaires sans que je sois averti des attaques, afin que je puisse les prévenir.
D'accord.
À votre gloire, dit Doria en haussant son verre.
Je vois bien que vous avez lu les marguerites, dit Lucien.
Doria ne se déconcerta pas.
Mon petit, acheter les marguerites sans les connaître est la plus belle flatterie que puisse se permettre un libraire.
Dans 6 mois, vous serez un grand poète. Vous aurez des articles. On vous craint. Je n'aurai rien à faire pour vendre votre livre. Je suis aujourd'hui le même négociant d'il y a 4 jours.
Ce n'est pas moi qui ai changé, mais vous.
La semaine dernière, vos sonnets étaient pour moi comme des feuilles de chou. Aujourd'hui, votre position en a fait des mécéniennes.
Eh bien, dit Lucien, que le plaisir sultanesque d'avoir une belle maîtresse et que la certitude de son succès rendait railleur et adorablement impertinent,
si vous n'avez pas lu mes sonnets, vous avez lu mon article.
Oui, mon ami, sans cela, serais-je venu si promptement?
Il est malheureusement très beau, ce terrible article.
Ah, vous avez un immense talent, mon petit.
Croyez-moi.
Profitez de la vogue, dit-il avec une bonhomie qui cachait la profonde impertinence du mot.
Mais avez-vous reçu le journal? L'avez-vous lu?
Pas encore, dit Lucien.
Et cependant, voilà la première fois que je publie un grand morceau de prose.
Mais Hector l'aura fait adresser chez moi à rue Charlot.
Tiens, lis, dit Doria en imitant Talma dans Manlius.
Lucien prit la feuille que Coralie lui arracha.
À moi, les prémices de votre plume, vous savez bien, dit-elle en riant.
Doria fut étrangement flatteur et courtisan. Il craignait Lucien. Il l'invita donc avec Coralie à un grand dîner qu'il donnait aux journalistes vers la fin de la semaine. Il emporta le manuscrit des marguerites en disant à son poète de passer, quand il lui plairait, aux galeries de bois pour signer le traité qu'il tiendrait prêt. Toujours fidèle aux façons royales par lesquelles il essayait d'en imposer aux gens superficiels et de passer plus tôt pour un mécène que pour un libraire, il laissa les 3 000 francs sans en prendre de reçu, refusa la quittance offerte par Lucien en faisant un geste de nonchalance et partit en baisant la main à Coralie.
« Eh bien, mon amour, aurais-tu vu beaucoup de ces chiffons-là si tu étais resté dans ton trou de la rue de Cluny à marauder dans tes bouquins de la bibliothèque Sainte-Geneviève ?»
dit Coralie à Lucien, qui lui avait raconté toute son existence.
« Tiens, tes petits amis de la rue des Quatre Vents me font l'effet d'être de grands jobards !»
Ses frères du Cénacle étaient des jobards, et Lucien entendit cet arrêt en riant. Il avait lu son article imprimé. Il venait de goûter cette ineffable joie des auteurs, ce premier plaisir d'amour-propre qui ne caresse l'esprit qu'une seule fois. En lisant et relisant son article, il en sentait mieux la portée et l'étendue. L'impression est au manuscrit ce que le théâtre est aux femmes. Elle met en lumière les beautés et les défauts. Elle tue aussi bien qu'elle fait vivre. Une faute saute alors aux yeux aussi vivement que les belles pensées. Lucien, enivré, ne songeait plus à Nathan. Nathan était son marchepied. Il nageait dans la joie, il se voyait riche. Pour un enfant qui, naguère, descendait modestement les rampes de Beaulieu à Angoulême, revenait à Loumeau dans le grenier de Postel où toute la famille vivait avec 1 200 francs par an, la somme apportée par Doria était le potose. Un souvenir, bien vif encore, mais que les continuelles jouissances de la vie parisienne devaient éteindre, le ramena sur la place du mûrier. Il se rappela sa belle, sa noble sœur Ève, son David et sa pauvre mère. Aussitôt, il envoya Bérénice changer un billet et, pendant ce temps, il écrivit une petite lettre à sa famille. Puis, il dépêcha Bérénice aux messageries en craignant de ne pouvoir, s'il tardait, donner les 500 francs qu'il adressait à sa mère. Pour lui, pour Coralie, cette restitution paraissait être une bonne action. L'actrice embrassa Lucien, elle le trouva le modèle des fils et des frères, elle le combla de caresses, car ces sortes de traits enchantent ces bonnes filles, qui toutes ont le cœur sur la main. « Nous avons maintenant, lui dit-elle, un dîner tous les jours pendant une semaine. Nous allons faire un petit carnaval. Tu as bien assez travaillé. » Coralie, en femme qui voulait jouir de la beauté d'un homme que toutes les femmes allaient lui envier, le ramena chez Staube. Elle ne trouvait pas Lucien assez bien habillé. De là, les deux amants allèrent au bois de Boulogne et revinrent dîner chez Madame du Val-Noble, où Lucien trouva Rastignac, Bixiou, Deslupeaux, Finot, Blondet, Vignon, le baron de Nucingen, Beaudenord, Philippe Bridau, Conti, le grand musicien. Tout le monde des artistes, des spéculateurs, des gens qui veulent opposer de grandes émotions à de grands travaux, et qui tous accueillirent Lucien à merveille. Lucien, sûr de lui, déploya son esprit comme s'il n'en faisait pas commerce et fut proclamé homme fort, éloge alors à la mode entre ses demi-camarades. « Oh, il faudra voir ce qu'il a dans le ventre !» dit Théodore Gaillard à l'un des poètes protégés par la cour qui songeait à fonder un petit journal royaliste appelé plus tard « Le Réveil ». Après le dîner, les deux journalistes accompagnèrent leur maîtresse à l'opéra, où Merlin avait une loge et où toute la compagnie se rendit. Ainsi, Lucien reparut triomphant là où, quelques mois auparavant, il était lourdement tombé. Il se produisit au foyer, donnant le bras à Merlin et à Blondet, regardant en face les dandys qui naguère l'avaient mystifié. Il tenait Châtelet sous ses pieds. De Marsay, Vandenesse, Manerville, les lions de cette époque, échangèrent alors quelques airs insolents avec lui. Certes, il avait été question du beau, de l'élégant Lucien dans la loge de Madame d'Espard, où Rastignac fit une longue visite, car la marquise et Madame de Bargeton lorgnèrent Coralie. Lucien excitait-il un regret dans le cœur de Madame de Bargeton? Cette pensée préoccupa le poète. En voyant la Corinne d'Angoulême, un désir de vengeance agitait son cœur, comme au jour où il avait essuyé le mépris de cette femme et de sa cousine aux Champs-Élysées. « Êtes-vous venu de votre province avec une amulette ? » dit Blondet à Lucien, en entrant quelques jours après vers 11 heures chez Lucien, qui n'était pas encore levé. « Sa beauté, dit-il en montrant Lucien à Coralie qu'il baisa au front, fait des ravages depuis la cave jusqu'au grenier, en haut, en bas. « Je viens vous mettre en réquisition, mon cher, dit-il en serrant la main au poète. Hier, aux Italiens, Madame la comtesse de Montcornet a voulu que je vous présentasse chez elle. Vous ne refuserez pas une femme charmante, jeune, et chez qui vous trouverez l'élite du beau monde. « Si Lucien est gentil, dit Coralie, il n'ira pas chez votre comtesse. Qu'a-t-il besoin de traîner sa cravate dans le monde? Il s'y ennuierait. « Voulez-vous le tenir en charte privée ? » dit Blondet. « Êtes-vous jalouse des femmes comme il faut ?»« Oui, s'écria Coralie. Elles sont pires que nous. »« Comment le sais-tu, ma petite chatte ? » dit Blondet. « Par leur mari, répondit-elle. « Vous oubliez que j'ai eu de Marsay pendant 6 mois. »« Croyez-vous, mon enfant, dit Blondet,
que je tienne beaucoup à introduire chez madame de Montcornet un homme aussi beau que le vôtre. Si vous vous y opposez, prenons que je n'ai rien dit. Mais il s'agit moins, je crois, de femme que d'obtenir paix et miséricorde de Lucien à propos d'un pauvre diable, le plastron de son journal. Le baron Châtelet a la sottise de prendre des articles au sérieux. La marquise d'Espard, madame de Bargeton et le salon de la comtesse de Montcornet s'intéressent au Héron, et j'ai promis de réconcilier Laure et Pétrarque.
Ah ! S'écria Lucien, dont toutes les veines reçurent un sang plus frais et qui sentit l'enivrante jouissance de la vengeance satisfaite. « J'ai donc le pied sur leur ventre. Ah, vous me faites adorer ma plume, adorer mes amis, adorer le journal et la fatale puissance de la pensée. Je n'ai donc pas encore fait d'article sur la sèche et le héron. J'irai, mon petit, dit-il en prenant Blondet par la taille. Oui, j'irai. Mais quand ce couple aura senti le poids de cette chose si légère ? Il prit la plume avec laquelle il avait écrit l'article sur Nathan et la brandit. Demain, je leur lance deux petites colonnes à la tête. Après, nous verrons. Ne t'inquiète de rien, Coralie. Il ne s'agit pas d'amour, mais de vengeance, et je la veux complète.
Voilà un homme, dit Blondet.
Oh, si tu savais, Lucien, combien il est rare de trouver une explosion semblable dans le monde blasé de Paris. Tu pourrais t'apprécier. Tu seras un fier drôle, dit-il en se servant d'une expression un peu plus énergique. Tu es dans la voie qui mène au pouvoir.
Il arrivera, dit Coralie. Mais il a déjà fait bien du chemin en 6 semaines.
Et quand il ne sera séparé de quelques sceptres, que par l'épaisseur d'un cadavre, il pourra se faire un marchepied du corps de Coralie.
« Vous vous aimez comme au temps de l'âge d'or, » dit Blondet.
« Je te fais mon compliment sur ton grand article, » reprit-il en regardant Lucien. « Il est plein de choses neuves. Te voilà passé maître. »
Lousteau vint avec Hector Merlin et Vernou voir Lucien, qui fut prodigieusement flatté d'être l'objet de leurs attentions. Félicien apportait 100 francs à Lucien pour le prix de son article. Le journal avait senti la nécessité de rétribuer un travail si bien fait afin de s'attacher l'auteur. Coralie, en voyant ce chapitre de journaliste, avait envoyé commander un déjeuner au Cadran Bleu, le restaurant le plus voisin. Elle les invita tous à passer dans sa belle salle à manger quand Bérénice vint lui dire que tout était prêt. Au milieu du repas, quand le vin de champagne eut monté toutes les têtes, la raison de la visite que faisaient à Lucien ses camarades se dévoila.
« Tu ne veux pas, lui dit Lousteau, te faire un ennemi de Nathan. Nathan est journaliste, il a des amis. Il te jouerait un mauvais tour à ta première publication.
N'as-tu pas l'archer de Charles IX à vendre ? Nous avons vu Nathan ce matin. Il est au désespoir.
Mais tu vas lui faire un article où tu lui seringueras des éloges par la figure.
Comment ? Après mon article contre son livre, vous voulez ? Demanda Lucien.
Émile Blondet, Hector Merlin, Étienne Lousteau, Félicien Vernou, tous interrompirent Lucien par un éclat de rire.
Tu l'as invité à souper ici pour après-demain, lui dit Blondet.
Ton article, lui dit Lousteau, n'est pas signé. Félicien, qui n'est pas si neuf que toi, n'a pas manqué d'y mettre au bas un C, avec lequel tu pourras désormais signer tes articles dans son journal, qui est gauche pure.
Nous sommes tous de l'opposition. Félicien a eu la délicatesse de ne pas engager tes futures opinions. Dans la boutique d'Hector, dont le journal est centre-droit, tu pourras signer par un L. On est anonyme pour l'attaque, mais on signe très bien l'éloge.
Les signatures ne m'inquiètent pas, dit Lucien. Mais je ne vois rien à dire en faveur du livre.
Tu pensais donc ce que tu as écrit ? Dit Hector à Lucien.
Oui ?
Ah, mon petit, dit Blondet, je te croyais plus fort.
Non, ma parole d'honneur, en regardant ton front, je te douais d'une omnipotence semblable à celle des grands esprits, tous assez puissamment constitués pour pouvoir considérer toute chose dans sa double forme.
Mon petit, en littérature, chaque idée a son envers et son endroit, et personne ne peut prendre sur lui d'affirmer quel est l'envers. Tout est bilatéral dans le domaine de la pensée. Les idées sont binaires. Janus est le mythe de la critique et le symbole du génie. Il n'y a que Dieu de triangulaire.
Ce qui met Molière et Corneille hors ligne, n'est-ce pas la faculté de faire dire oui à Alceste et non à Philinte, à Octave et à Cinna ?
Rousseau, dans la Nouvelle Héloïse, a écrit une lettre pour et une lettre contre le duel. Oserais-tu prendre sur toi de déterminer sa véritable opinion ?
Qui de nous pourrait prononcer entre Clarisse et Lovelace, entre Hector et Achille ? Quel est le héros d'Homère ? Quelle fut l'intention de Richardson ?
La critique doit contempler les œuvres sous tous leurs aspects.
Enfin, nous sommes de grands rapporteurs.
Vous tenez donc à ce que vous écrivez ? Lui dit Vernou d'un air railleur.
Mais nous sommes des marchands de phrases, et nous vivons de notre commerce.
Quand vous voudrez faire une grande et belle œuvre, un livre enfin, vous pourrez y jeter vos pensées, votre âme, vous y attacher, le défendre. Mais des articles lus aujourd'hui, oubliés demain, ça ne vaut à mes yeux que ce qu'on les paie.
Si vous mettez de l'importance à de pareilles stupidités, vous ferez donc le signe de la croix et vous invoquerez l'Esprit Saint pour écrire un prospectus.
Tous parurent étonnés de trouver à Lucien des scrupules et achevèrent de mettre en lambeaux sa robe prétexte pour lui passer la robe virile des journalistes.
« Sais-tu par quel mot s'est consolé Nathan après avoir lu ton article ?» dit Lousteau.
« Comment le saurais-je ? »
Nathan s'est écrié « Les petits articles passent, les grands ouvrages restent. Cet homme viendra souper ici dans 2 jours. Il doit se prosterner à tes pieds, baiser ton ergot et te dire que tu es un grand homme. »
« Ah, ce serait drôle, » dit Lucien.
« Drôle ? » reprit Blondet.
« C'est nécessaire. »«
Mes amis, je veux bien, » dit Lucien un peu gris.
« Mais comment faire ?»«
Eh bien, » dit Lousteau, « écris pour le journal de Merlin 3 belles colonnes où tu te réfuteras toi-même. Après avoir joui de la fureur de Nathan, nous venons de lui dire qu'il nous devrait bientôt des remerciements pour la polémique serrée à l'aide de laquelle nous allions faire enlever son livre en 8 jours. Dans ce moment-ci, tu es, à ses yeux, un espion, une canaille, un drôle. Après-demain, tu seras un grand homme, une tête forte, un homme de Plutarque. Nathan t'embrassera comme son meilleur ami.
Doria est venue. Tu as 3 billets de 1000 francs. Le tour est fait.
Maintenant, il te faut l'estime et l'amitié de Nathan. Il ne doit y avoir d'attrapé que le libraire. Nous ne devons immoler et poursuivre que nos ennemis. S'il s'agissait d'un homme qui eût conquis un nom sans nous, d'un talent incommode et qu'il fallut annuler, nous ne ferions pas de réplique semblable. Mais Nathan est un de nos amis. Blondet l'avait fait attaquer dans le Mercure pour se donner le plaisir de répondre dans les débats.
Aussi, la première édition du livre s'est-elle enlevée.
Mes amis, foi d'honnête homme, je suis incapable d'écrire 2 mots d'éloge sur ce livre.
Tu auras encore 100 francs, dit Merlin. Nathan t'aura déjà rapporté 10 louis, sans compter un article que tu peux faire dans la revue de Finot, et qui te sera payé 100 francs par Doria et 100 francs par la revue. Total, 20 louis.
Mais que dire ? Demanda Lucien.
Voici comment tu peux t'en tirer, mon enfant, répondit Blondet en se recueillant. L'envie, qui s'attache à toutes les belles œuvres, comme le ver aux beaux et bons fruits, a essayé de mordre sur ce livre, diras-tu. Pour y trouver des défauts, la critique a été forcée d'inventer des théories à propos de ce livre, de distinguer deux littératures, celle qui se livre aux idées et celle qui s'adonne aux images. Là, mon petit, tu diras que le dernier degré de l'art littéraire est d'empreindre l'idée dans l'image. En essayant de prouver que l'image est toute la poésie, tu te plaindras du peu de poésie que comporte notre langue, tu parleras des reproches que nous font les étrangers sur le positivisme de notre style, et tu loueras M. de Canalis et Nathan des services qu'ils rendent à la France en déprosaïsant son langage. Accable ta précédente argumentation en faisant voir que nous sommes en progrès sur le XVIIIe siècle. Invente le progrès, une adorable mystification à faire aux bourgeois. Notre jeune littérature procède par tableaux où se concentrent tous les genres, la comédie et le drame, les descriptions, les caractères, le dialogue, sertis par les nœuds brillants d'une intrigue intéressante. Le roman, qui veut le sentiment, le style, l'image, est la création moderne la plus immense. Il succède à la comédie, qui, dans les mœurs modernes, n'est plus possible avec ses vieilles lois. Il embrasse le fait et l'idée dans ses inventions, qui exigent et l'esprit de la Bruyère et sa morale incisive, les caractères traités comme l'entendait Molière, les grandes machines de Shakespeare et la peinture des nuances les plus délicates de la passion, unique trésor que nous aient laissé nos devanciers. Aussi, le roman est-il bien supérieur à la discussion froide des mathématiques, à la sèche analyse du XVIIIe siècle. Le roman, diras-tu sentencieusement, est une épopée amusante. Cite Corinne, appuie-toi sur Madame de Staël. Le XVIIIe siècle a tout mis en question. Le XIXe est chargé de conclure. Ainsi conclut-il par des réalités, mais par des réalités qui vivent et qui marchent. Enfin, il met en jeu la passion, élément inconnu à Voltaire. Tirade contre Voltaire. Quant à Rousseau, il n'a fait qu'habiller des raisonnements et des systèmes. Julie et Claire sont des entéléchies, elles n'ont ni chair ni os.
Tu peux démancher sur ce thème
et dire que nous devons à la paix, au Bourbon, une littérature jeune et originale, car tu écris dans un journal centre-droit. Moque-toi des faiseurs de système. Enfin, tu peux t'égriller par un beau mouvement. Voilà bien des erreurs, bien des mensonges chez notre confrère. Et pourquoi ? Pour déprécier une belle œuvre, tromper le public et arriver à cette conclusion, un livre qui se vend ne se vend pas. Pro pudeur, lâche pro pudeur. Ce juron honnête anime le lecteur. Enfin, annonce la décadence de la critique. Conclusion, il n'y a qu'une seule littérature, celle des livres amusants. Nathan est entré dans une voie nouvelle, il a compris son époque et répond à ses besoins. Le besoin de l'époque est le drame. Le drame est le vœu du siècle où la politique est un mimodrame perpétuel. N'avons-nous pas vu, en 20 ans, diras-tu, les 4 drames de la Révolution, du Directoire, de l'Empire et de la Restauration ?
De là, tu roules dans le dithyrambe de l'éloge, et la seconde édition s'enlève, car, samedi prochain, tu feras une feuille dans notre revue, et tu la signeras de Rubempré en toutes lettres. Dans ce dernier article, tu diras « Le propre des belles œuvres est de soulever d'amples discussions. Cette semaine, tel journal a dit telle chose du livre de Nathan. Tel autre lui a vigoureusement répondu. Tu critiques les deux critiques, C et L. Tu me dis en passant une politesse à propos de mon article des débats. Et tu finis en affirmant que l'œuvre de Nathan est le plus beau livre de l'époque. C'est comme si tu ne disais rien. On dit cela de tous les livres. Tu auras gagné 400 francs dans ta semaine, outre le plaisir d'écrire la vérité quelque part. Les gens sensés donneront raison ou à C, ou à L, ou à Rubempré, peut-être à tous trois. La mythologie, qui certes est une des plus grandes inventions humaines, a mis la vérité dans le fond d'un puits. Ne faut-il pas des sceaux pour l'en tirer ? Tu en auras donné 3 pour 1 au public. Voilà, mon enfant, marche ! Lucien fut étourdi. Blondet l'embrassa sur les deux joues en lui disant : « Je vais à ma boutique !»